au dos, une soif intense. L'enfant peut émettre beaucoup d'urine, donc une polyurie. La femme peut avoir envie de beaucoup manger, ce qu'on appelle une polyphagie. Elle est fatiguée à tout moment. La femme peut aussi se plaindre seulement de pleurites vaginaux.
Quand une femme enceinte remarque tous les signes que vous venez de développer, qu'est-ce qu'elle devait faire?
Bon, naturellement, elle devrait aller se faire consulter. Et lors de la consultation, on va lui faire une prise de sang, on va l'évaluer et finalement, après un bilan, on va faire la glycémie. Après ça, le médecin ou le clinicien va analyser par rapport aux valeurs et va conclure à un diabète gestationnel. Parfois aussi, c'est à l'occasion de rien, elle vient pour une consultation prénatale et finalement, on fait l'examen, une prise de sang, on découvre que elle fait le diabète gestationnel.
Quand la femme est enceinte et qu'elle développe un diabète, quels sont les risques pour le bébé à naître ou pour le bébé qui est encore dans le ventre?
Le diabète est une maladie grave, mais pas aussi grave comme on le croit si on la suit ou bien si on est suivi. Pour le fœtus, vous savez que l'effet de type peut amener à des anomalies chromosomiques, surtout si c'est au premier trimestre de la grossesse, quand l'enfant se forme.
Quelles peuvent être les conséquences?
Ça peut vous amener à des avortements ou carrément à des malformations congénitales liées à l'hyperglycémie, à l'excès de sucre qui est en train de passer dans la circulation.
L'enfant à naître peut-il hériter de cette hyperglycémie?
Cette hyperglycémie peut aussi se transmettre à l'enfant, ce qu'on appelle l'hyperglycémie fœtale, fœto-maternelle ou materno-fœtale, qui va transiter vers l'enfant et cela pourra induire à la longue une souffrance fœtale. Cette fois-là, c'est une souffrance fœtale chronique par intoxication due au glucose.
Les complications liées au diabète gestationnel peuvent-elles conduire à la mort?
Ça peut aussi créer une mort fœtale in utero, ce qu'on appelle mort subite. Surtout quand on arrive autour de la 36e semaine. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance, même pendant la grossesse, à cause d'une glycogénie ou une polyurie fœtale qui va être responsable d'excès d'eau ou d'une polyhydramnose. C'est un peu ça, des complications qui peuvent survenir pendant la grossesse.
Quelles sont les complications qui pourraient survenir pendant l'accouchement?
Lors de l'accouchement, par exemple, l'enfant qui va naître est très gros, ce qu'on appelle un macrosome fœtal, ça peut avoir des répercussions et lors de la naissance. Si l'enfant est trop gros, il peut avoir, lors de son passage dans les voies génitales, là, l'enfant peut connaître une fracture des épaules lors de sa sortie ou une paralysie carrément des membres supérieurs ou une élongation du plexus brachial. Il faut aussi noter que cet enfant qui naît avec hyperglycémie, c'est un enfant fragile qui peut faire des hypoglycémies lors de la naissance ou après la naissance. Il peut faire des hypocalcémies qui vont amener l'enfant à être très fragile à la naissance.
Nous avons vu que le diabète peut entraîner beaucoup de complications à l'enfant qui est encore dans le ventre ou pendant la naissance. Mais est-ce qu'il y a un risque que lorsque l'enfant naît, qu'il développe plus tard un diabète?
C'est justement ça, parce que un enfant qui naît d'une mère diabétique peut faire ce qu'on appelle un hyperinsulinisme résiduel. Cela pourrait avoir des conséquences plus tard dans sa vie s'il n'est pas soigné correctement. C'est un enfant qui est prédisposé déjà à être obèse dans l'avenir. Vous savez que l'obésité appelle le diabète et vice-versa.
Docteur, nous avons vu qu'il y a beaucoup de complications pour le bébé. On veut savoir si une femme qui développe un diabète pendant la grossesse peut aussi connaître des complications pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou après l'accouchement. Quelles peuvent être ces complications?
La mère qui fait le diabète peut avoir deux groupes de complications. Le premier groupe de complications, ce sont des complications liées d'abord au diabète, qu'il soit chez la femme enceinte ou chez la personne normale. Là, il y a des complications, ce que nous appelons des complications aiguës, c'est par exemple les comas, quand on peut entrer en coma. Il y a aussi des complications chroniques, c'est déjà des pieds diabétiques ou bien des AVC. Ça, c'est lié au diabète purement.
Et quels sont les risques d'un diabète gestationnel pour la femme?
Comme je l'ai dit tantôt, lié à la femme qui porte une grossesse, la femme peut développer des complications liées à l'accouchement. Un bébé qui est trop grand va faire que la femme ne saura pas la mettre au monde par les voies naturelles. Ça va amener à faire des césariennes. Parfois, quand on ne fait pas des césariennes, l'enfant peut naître par des voies basses, mais la mère va faire des déchirures et des parties molles. Et même l'utérus là, qui est trop gros, va amener à des atonies utérines et parfois aussi à des hémorragies de poche partout.
Le diabète présente beaucoup de risques aussi bien pour la mère que pour l'enfant à naître. Alphonse Boaki de la RDC veut savoir si le diabète gestationnel est passager et disparaît après l'accouchement.
Naturellement, le diabète gestationnel, quand c'est bien pris en charge, a tendance à disparaître après l'accouchement. Mais si on ne fait pas attention, quand vous avez fait déjà un diabète gestationnel, vous entrez dans la ligne de ceux qui ont des antécédents rénaux. Donc, il faut un suivi après l'accouchement, parce que vous courez le risque de développer un diabète, cette fois-là, un diabète sucré carrément de type 2.
Grady Bieka Mutombo se demande s'il y a un traitement efficace contre le diabète que la femme développe en cours de grossesse ou le diabète gestationnel. Comment se passe la prise en charge du diabète gestationnel?
Oui, la prise en charge du diabète gestationnel, c'est comme la prise en charge de tous les diabètes. Principalement, deux volets de prise en charge. Le premier volet, c'est le volet que nous appelons non médicamenteux, basé principalement sur des conseils alimentaires.
Quel genre de conseils?
Donc, c'est éviter de consommer les sucres simples et des graisses, encourager la consommation des sucres avec beaucoup de résidus, comme la banane plantain, les ignames, les maïs, les légumes, les fruits contenant peu de fructose ou beaucoup de fibres alimentaires, mais aussi c'est faire l'activité physique, faire une marche, faire plus des activités physiques qui sollicitent les membres supérieurs, par exemple régulièrement faire la lessive, faire la vaisselle, les repassages, ce sont des mesures hygiéno-diététiques en ce qui concerne l'alimentation et même l'environnement de la femme.
Docteur, quel est le deuxième volet?
Le deuxième volet, c'est le volet médicamenteux. Quand le taux de sucre est très élevé, on peut donner l'insuline. Rarement, on donne ce que nous appelons des antidiabétiques oraux.
Ces antidiabétiques oraux ne présentent-ils pas de danger pour la future mère ou le bébé?
Ces groupes de médicaments, des antidiabétiques oraux, ont parfois des conséquences. Si c'est au premier trimestre de la grossesse, il faut les prendre avec pincette parce que ça peut créer des petites malformations au niveau du fœtus qui est en train de se former. Mais aussi, certains antidiabétiques oraux ont des implications à la naissance. Parce que vous savez, j'ai dit tantôt que cet enfant-là, c'est un enfant qui a une hyperglycémie, qui est un macrosome, qui est déjà fragile. Alors quand il naît, vous donnez encore les antidiabétiques oraux. Chez l'enfant, ça risque de passer au niveau de lait maternel et créer des hypoglycémies parce que les antidiabétiques oraux, au fait, ce sont des médicaments qui servent et l'insuline à baisser les taux de sucre dans le corps de la mère. Et quand ça peut passer par le lait maternel, ça peut avoir, surtout en ce qui concerne les antidiabétiques oraux, de l'influence chez l'enfant. Donc, ça peut créer des hypoglycémies chez l'enfant. Ce sont des traitements de complications, on les prend en charge médicalement.
C'est rassurant de savoir que le diabète gestationnel a un traitement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors, docteur Kéba, comment est-ce que se fait la prévention du diabète gestationnel? Comment est-ce que la femme enceinte peut prévenir le diabète gestationnel?
Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un se connaît déjà, qu'il a des antécédents de diabète dans la famille et qu'il a un âge avancé et tout ça, il limite les apports de sucre qu'il consomme, et il fait souvent des exercices physiques, il ne mange pas avec les baïques, il programme ses repas par jour, il consulte à temps quand la femme est enceinte. Ce sont des mesures-là qui vous épargnent de faire le diabète gestationnel. Donc, quand vous vous connaissez déjà que vous avez des antécédents, vous avez un âge assez avancé, vous avez un surpoids, vous avez un parent ou une sœur ou un oncle qui a déjà souffert de diabète, vous vous trouvez déjà prédisposé. Contrôlez ce que vous mangez, faites des exercices physiques régulièrement et ça vous prévient à faire le diabète. Et quand effectivement vous êtes diabétique, après une consultation, vous prenez des médicaments et ça vous prévient des complications.
Nous avons un auditeur, Eric Kamanda, qui depuis la RDC veut savoir si la consultation d'une femme diabétique enceinte se fera toujours de la même façon que toute femme enceinte normale qui ne présente pas de diabète.
Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, c'est une consultation normale, mais seulement la femme doit dire déjà au préalable à son clinicien qu'elle est diabétique ou qu'elle a des problèmes ou elle a des antécédents de diabète. Et là, le clinicien prendra des mesures, des orientations qu'il va lui donner pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA. Afrique.
Le même auditeur, Eric Kamanda, veut savoir s'il est bon pour qu'une femme diabétique donne régulièrement naissance. Je pense qu'il veut savoir s'il y a une limitation de naissance pour une femme qui développe souvent le diabète pendant la grossesse.
Les naissances ne sont pas limitées. Mais il faut savoir que plus vous donnez naissance, plus vous vous exposez. C'est comme ça que, autour déjà de la cinquième parité, de la cinquième grossesse, on déconseille aux femmes. Parce qu'à chaque grossesse, il y a une stimulation ou une sécrétion des hormones en cascade dans le corps de la femme. À tout moment, quand une femme tombe enceinte, le placenta sécrète beaucoup d'hormones. Et ces hormones-là sont à la base de l'hyperglycémie parfois, quand surtout ça s'ajoute sur un terrain diabétique. Je l'ai dit tantôt que ces femmes-là étaient prédisposées à subir des césariennes avec des dystocies des épaules ou des fractures de l'épaule chez l'enfant et tout ça. Donc, naturellement, au fur et à mesure que cette femme-là a une grossesse, deux grossesses, donc chaque grossesse de plus expose cette dame-là de plus en plus. Naturellement, déjà, autour de la quatrième, de la cinquième parité, donc de la quatrième, cinquième grossesse, on devra déjà penser à faire une contraception chez cette femme qui fait le diabète gestationnel pour l'épargner de beaucoup de complications qu'elle peut avoir. Et aussi, si c'est une femme très âgée, donc ce sont des personnes, des sujets, on doit veiller à faire une contraception pour éviter de les faire courir des risques déjà graves par rapport à leur état, qui vont être majorés par rapport aux grossesses qui vont s'ajouter.
Est-ce que le diabète gestationnel ne se développe que pendant la première grossesse ou la femme peut avoir des grossesses sans diabète et plus tard, peut-être à la troisième ou à la quatrième grossesse, développer un diabète?
Oui, ça peut arriver chez une femme à la première grossesse, surtout quand elle a des prédispositions. Comme aussi ça peut arriver à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Ça dépend des prédispositions de chaque femme. Donc il n'y a pas une ligne de démarcation qui dise que c'est seulement à telle grossesse ou à telle autre grossesse. C'est là où se trouve le bien fondé des consultations prénatales que les femmes doivent faire régulièrement.
Merci Dr Nkeba. Pour finir notre interview, un conseil à toutes les femmes enceintes qui développent ou non un diabète gestationnel et qui sont en train de nous suivre en ce moment?
Le conseil à donner à toutes les femmes enceintes, c'est seulement, ça doit être dans la mentalité des femmes comme ça, que dès qu'elles constatent qu'elles n'ont plus de règles, elles doivent se diriger vers un centre ou bien vers un hôpital pour commencer ces CPN. Et lors de CPN, on aura à mettre en évidence ce qui peut plus tard compliquer une grossesse.
Merci beaucoup, Dr Nkeba, de nous avoir accordé cette interview.
Cette semaine, dans Carnet de santé, qu'est-ce que l'anémie et quels en sont les risques? Nous aurons quelques éléments de réponse. Et un expert explique comment prévenir ce trouble sanguin chez les plus vulnérables et les options de traitement. Ensuite, des dispositions au Mozambique pour lutter contre le mariage des enfants. Il s'agit de l'une des maladies sanguines les plus courantes au monde. L'anémie est une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang. Cette substance est présente dans les globules rouges du sang et permet de transporter l'oxygène vers tous les organes du corps. Près de 2 milliards de personnes dans le monde ont été touchées par l'anémie en 2021. Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. L'OMS affirme que des problèmes tels qu'une mauvaise alimentation, les infections, les maladies chroniques, les menstruations abondantes et les problèmes de grossesse peuvent conduire à l'anémie. La cause la plus courante d'anémie est la carence en fer ainsi que le paludisme dans les pays dits sous-développés. Partons tout de suite à Nairobi au Kenya pour en savoir plus dans ce reportage de Mohamed Youssouf relaté par Nathalie Barche.
Myriam Kita et Sylvia Anyango souffrent d'anémie, une maladie qui touche une personne sur quatre dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les femmes sont considérées comme anémiques lorsque leur concentration de globules rouges tombe en dessous de 12 grammes par décilitre et les hommes en dessous de 13 grammes. Les deux femmes attribuent leur anémie en partie à la grossesse.
Je pense que j'ai souffert d'anémie parce que je suis tombée à nouveau enceinte peu de temps après l'accouchement et que je n'ai pas les moyens de manger des aliments sains.
Je ne peux pas amener mon taux sanguin au minimum requis parce que j'aurai besoin de légumes pour avoir suffisamment de sang dans le corps. Et aussi lorsque j'accoucherai, je serai désavantagée.
Selon les experts de la santé, l'anémie pendant la grossesse est liée à une augmentation des taux d'accouchement prématuré, d'hémorragie postpartum, d'insuffisance pondérale à la naissance, de mortinatalité et d'infection chez l'enfant et la mère. Les symptômes de l'anémie comprennent l'essoufflement, les étourdissements et la fatigue. Les médecins affirment que l'une des principales causes de l'anémie est le manque d'aliments contenant du fer, un minéral dont le corps a besoin pour sa croissance et son développement.
Ce dont j'ai été témoin, c'est de l'augmentation de l'anémie ferriprive. Et le facteur contributif le plus important est l'insécurité alimentaire des ménages. Un grand nombre de nos patients n'ont pas les moyens d'acheter des aliments riches en fer, voire même de la nourriture de base. Ils finissent toujours par sauter des repas pour survivre ou pour réduire la quantité ou la qualité des aliments à consommer.
Selon une étude de l'Institut de mesure et d'évaluation de la santé, en 2021, la carence en fer était responsable des deux tiers des cas d'anémie, touchant 825 millions de femmes et 444 millions d'hommes dans le monde. Le taux de personnes anémiques est plus élevé en Afrique subsaharienne et des pays comme le Mali, le Togo et la Zambie ont une prévalence de plus de 50%.
Nous vous avons demandé votre avis sur l'anémie. Qu'en savez-vous et connaissez-vous un aliment qui est une bonne source de fer? Voici quelques réactions depuis la Tanzanie.
Je sais que l'anémie est une carence en fer. Il peut s'agir d'une maladie ou d'un mauvais état de santé. Il y a l'anémie pathologique qui est différente. C'est comme une maladie. Vous recevez des traitements et des conseils en matière d'alimentation. Et il y a une autre forme d'anémie, la condition dans laquelle on vous dit que vous souffrez d'une carence en fer. Lorsque vous avez une carence en fer, on vous conseille surtout sur la façon de vous alimenter.
En tant que mère, en tant que femme enceinte, vous devez d'abord faire un suivi médical si vous êtes enceinte, afin d'éviter l'anémie. Par ailleurs, si vous avez un enfant, un nouveau-né, veillez à ce qu'il soit exclusivement allaité pendant 6 mois. Et si vous êtes adulte, vous pouvez opter pour la tradition en consommant des fruits qui peuvent vous aider. Oui, ou un régime alimentaire bien équilibré.
Je sais que l'anémie est causée par un manque de fer dans le corps ou dans le sang. Lorsque vous êtes anémique, vous avez tendance à ne pas avoir suffisamment de sang dans votre corps, ce qui peut entraîner des complications pour votre santé.
Les aliments riches en fer sont peut-être les épinards. Et c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais très jeune à propos des épinards et des fruits. Et vous pouvez aussi consommer des brocolis. Il y a aussi la betterave et les dattes, ce type de fruits que la plupart des musulmans consomment pendant le ramadan. Très, très riches en fer.
Le docteur Ibrahim Bello est hématologue à l'hôpital national d'Abuja. Il nous offre des explications sur l'anémie et partage quelques conseils de prévention.
L'anémie signifie simplement une réduction de la concentration d'hémoglobine dans le sang. Cette hémoglobine est contenue dans les globules rouges et l'hémoglobine est la substance qui contient le pigment qui transporte l'oxygène dans le sang. La plupart des malades sont des femmes et des enfants. Ce sont les deux groupes les plus vulnérables à l'anémie. D'abord chez les femmes, en raison de leur cycle menstruel, puis pendant la grossesse et l'accouchement, parce qu'elles perdent une grande quantité de sang. Chez les enfants, cela est dû à leur croissance. Ensuite, la plupart des enfants se déplacent, en particulier ceux qui restent près des rivières. Ils ont tendance à boire l'eau de la rivière qui n'est bien sûr pas propre. Cela peut affecter les reins et conduire à ce que nous appelons la névrose cérébrale aiguë. Dans le cerveau, vous pouvez avoir ce que l'on appelle un caillot de sang et dans le cœur, il peut y avoir un caillot de graisse. Le traitement repose essentiellement sur les médicaments ou la transfusion sanguine. Par ailleurs, la nutrition est également très importante. Si une personne présente une anémie, nous lui conseillons un régime alimentaire adapté au type d'anémie dont elle souffre. La viande rouge est riche en fer, les produits laitiers sont riches en vitamine B12 et les légumes sont riches en acide folique. Nous conseillons donc au patient le régime alimentaire approprié. Ensuite, nous plaçons la personne sous certains médicaments, des médicaments que nous utilisons normalement pour traiter l'anémie. Ensuite, s'il est nécessaire de procéder à la transfusion sanguine des patients atteints d'anémie, si le patient présente des symptômes et nécessite une transfusion, nous procédons à la transfusion sanguine du patient. Pour les femmes qui participent aux consultations prénatales, cela est très important pendant la grossesse parce que leur niveau sanguin sera évalué et elles seront placées sous un traitement hématologique approprié, c'est-à-dire des médicaments qui aideront à augmenter leur niveau sanguin.
Les experts affirment que le mariage précoce affecte la santé et le bien-être des filles. Plusieurs données montrent que les filles qui se marient très jeunes sont souvent victimes de violences conjugales et plus susceptibles de souffrir de maladies cardiaques et sexuellement transmissibles, de troubles psychiatriques graves et aussi de complications liées à l'accouchement. Allons au Mozambique où 4 femmes sur 10 ont été mariées avant l'âge de 18 ans, selon une nouvelle étude de l'Institut national des statistiques du Mozambique. Cette pratique illégale est difficile à arrêter et dangereuse pour celles qui tentent d'échapper à leur situation. André Batista a ce reportage, le récit de Michel Joseph.
Dans la ville de Manica, au centre du Mozambique, cette jeune fille de 11 ans est enceinte de 4 mois. La jeune fille, qui n'a pas voulu donner son nom pour des raisons de sécurité, dit avoir survécu à un viol et avoir été forcée à se marier.
J'étais chez ma mère. Il est arrivé, a enfoncé la porte et m'a emmenée ici au Mozambique, du Zimbabwe. Il m'a violée, il m'a pris ma virginité et m'a mise enceinte.
Au Mozambique, l'âge minimum du mariage est de 18 ans. Mais une nouvelle étude publiée en juillet par l'Institut national des statistiques indique que 4 femmes sur 10 ont été mariées avant cet âge. Et ces unions prématurées aboutissent souvent à des grossesses. 3% des femmes ayant contracté des unions précoces deviennent mères avant l'âge de 14 ans. En 2021, à l'âge de 16 ans, Pony Francis a décidé de quitter son mariage. Son mari a refusé d'accepter la séparation et a engagé des gens pour la tuer.
Lorsque j'ai quitté la maison pour aller à l'école avec 2 filles, nous avons vu 2 hommes sur la route et des hommes plus âgés. L'un d'eux a enlevé sa chemise et a caché son couteau. Le plus jeune a montré son couteau. Ils ont dit que les 2 jeunes filles pouvaient partir, mais que je devais rester. Je suis restée, mais j'ai commencé à réfléchir et commencé à courir. J'ai laissé tomber les livres et les stylos que je tenais. Ils m'ont attrapée et m'ont poignardée. Ils m'ont poignardée dans un œil et maintenant je ne vois plus que d'un œil.
Les blessures de Pony Francis étaient si graves qu'elle a dû réapprendre à marcher, à parler et à faire confiance aux gens. Les agresseurs ont été condamnés en juin. Une victoire non seulement pour Pony Francis, mais aussi pour la lutte contre les mariages précoces, explique Anshia Mulima, coordinatrice de l'organisation Les Musica, qui soutient les filles et les adolescentes comme Pony Francis pendant leur convalescence et leur fournit des services juridiques.
C'est l'une des choses positives que 2023 nous a apportées. Félicitations à Les Musica parce que nous avons pu nous battre jusqu'à ce que le procès nous donne raison et reconnaisse que cette fille avait le droit de gagner le procès.
Parfois, les parents des filles de La Musica sauvent un mariage précoce, les forcent à se remettre en couple avec des hommes plus âgés en guise de paiement d'une dette ou en échange d'une dot. Les statistiques nationales montrent qu'en dépit de la lutte qu'ils mènent depuis des décennies contre les mariages et les grossesses précoces, le Mozambique a encore du pain sur la planche pour résoudre ces 2 problèmes.
C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons discuté avec le docteur Timothée Nkeba, qui est médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Nous avons discuté entre autres des causes du diabète gestationnel, des femmes enceintes à risque et des complications que ce type de diabète présente pour le bébé et pour la mère. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Chef Thiero. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.